One, two, sen check. It's okay. That's it, man.
Wait.
That's it, man.
Provoscopie, l'émission politique de divergence. Au micro, ce n'est pas Laurent Baffy du tout, comme on pourrait confondre avec le générique que ce salopard nous a piqué. Ce n'est pas non plus Morousi qui est mort depuis un certain temps. C'est tout simplement le loup qui a perdu sa voix et le renard.
Qui a gardé la sienne.
Voilà, qui a gardé la sienne. La molette de cette semaine n'a pas pu être présente parce qu'on a légèrement changé. Cette fois-ci, pour une fois, c'est une émission enregistrée. On ne le fait jamais. Mais là, pour notre invité spécial, on le fait parce que notre invité, c'est un véritable louveteau. Il n'avait encore jamais franchi les portes de l'antre des belettes. La faute est réparée ce soir. Nous recevons Michael Delafosse, celui qui se proclame maire adjoint. Normalement, c'est adjoint au maire, hein. Mais lui, c'est maire adjoint après avoir mis à la retraite le sieur Talva. Et Michael Delafosse, qui pourrait bien être le fils que le grand Georges n'a jamais eu. Qui est ce garçon à la dentition éclatante? Attendez, je vérifie dans le studio pour voir si vraiment... Si. Comment vit-il ses premiers pas aux côtés de Hélène Mandrou? Quel avenir lui prête-t-on? Enfin, voilà de quoi passer un bon moment citoyen, vous en conviendrez. Et on va passer maintenant au palabre, mais avant, un petit jingle.
Divergente, divergent, vous êtes bien cadré dans vos fauteuils, quelques glaçons dans vos verres respectifs. Bon, vous le savez, à Provoscopie, rien ne peut se faire sans la rubrique du loup. Ce soir, il sera question de droit de succession, mais aussi peut-être de droit d'inventaire. En fait, quelque chose qui serait plutôt de l'histoire à rebours, un peu comme lorsque César recherchait un Brutus désespérément. Qu'en est-il le loup ?
Écoutez, vous savez, lorsque le vieux sage qui a conduit sa tribu durant de longues années vers le bonheur songe à l'avenir, il sait qu'il lui faudra un jour ou l'autre adouber un fils capable de reprendre le flambeau. Mais encore faut-il avoir un fils. Et lorsque le vieux sage, malgré sa vigueur, n'a su engendrer que des garçonnettes, il doit, avant de rendre les armes, choisir un fils qu'il adoptera. Et le vieux sage de dresser le profil de celui-là, entouré des vieux barbons que sont sa garde rapprochée depuis si longtemps. Le fils en question doit être un clone du père. Il doit lui ressembler tant qu'on puisse le confondre avec lui. Et pour ce faire, il faut l'armer, le préparer, le doter de l'art et la manière de faire. Il devra encore faire ses preuves. Le louveteau, il devra grandir en devenant un loup. Et le vieux sage de se remémorer l'histoire. La grande histoire, celle des héros, des empereurs antiques, et de se souvenir de César, recherchant Brutus désespérément. Brutus qui finit par tuer le père, sacrilège suprême. Il faut donc au vieux sage un petit Nicolas qui honorerait le père, et non un putain de Sarkozy traître dans son essence même. Un bon louveteau qui, comme lui en son temps, saurait prendre les rênes un peu comme celui dont Thiers disait de lui. C'est un crétin que l'on mènera. Je veux parler de Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, et le vieux sage de partir en quête de ce fils, et de regarder faire les uns et les autres, les pressés et les empressés, les cadras et les quinquas, les Don Quichottes et les Tartuffes, et d'envoyer des missi dominici courir dans les arrière-cours, les salons et les amphis, et de trouver. C'est lui. Il a le profil. Il lui ressemble. Étudiant en fin d'études, un peu historien, quoique géographe, personne n'est parfait. Syndicaliste, mutualiste, déjà prof, à gauche, plutôt que de gauche. Enfin, quoique, il est déjà là. quelque part du côté des coursives municipales. Il est beau garçon, le gendre idéal. Il parle bien, il parle fort. Il a un certain charisme tout approuvé. Et puis, il a l'âge qu'il avait, le vieux sage, lorsqu'il a commencé sa carrière politico-universitaire. Oui, ce ne peut être que lui. Ses filles, il pense au gendre, en conviennent d'ailleurs. Alors il faudra le former dès à présent. Il faut qu'il passe par la case député. En 2012, investi par son parti, le PS, avec sa bénédiction, il lui faudra envoyer dans les cordes le chirurgien du foie. En 2014, il devra démontrer ce vieux proverbe celte qui dit que l'avenir est un long passé. Tout est en place. Dès que les feuilles de vigne rougeoiront, le vieux sage l'adoubera en secret. Il passera par les mains des vieux barbons. Il faudra qu'il sache qu'il ne sera pas Brutus, parce que le vieux sage ne sera plus César. Et la partie de poker initiatique ne durera alors 1000 jours. Bien sûr, encore une fois, tout cela n'est qu'uchronie. Mais comme d'habitude, si tout n'est pas entièrement vrai, rien n'est tout à fait faux. Et maintenant, place au débat, mais avant le débat, une petite musique choisie par notre invité, Michael de la Fosse, c'est-à-dire le maire adjoint, et non pas l'adjoint au maire, mais ça, on va en parler, on va en discuter. Et là, il nous a choisi, c'est lui qui a choisi, hein, c'est pas nous, parce que d'habitude, avant, c'est nous qui choisissions, mais là, c'est lui. Il a choisi un air de Faust, on pouvait pas rêver mieux, suite à cette chronique, excusez du peu.
Oh.
Eh bien, nous sommes donc dans les studios de Divergence avec Michael Delafosse, le maire adjoint. Pas l'adjoint au maire, hein, c'est pas pareil. Et justement, on va en discuter là, pendant un petit moment. Si vous me permettez, je crois que pendant l'heure et quelques qui nous reste, je crois que je vais l'appeler Mephisto, le garçon. Alors, Michael, d'abord, bien le bonsoir.
Salut.
Et pourquoi Faust ? Parce qu'en plus, tu connaissais pas la chronique. Je te l'avais pas montré avant,
mais
pour nos auditeurs, il faut quand même qu'ils le sachent.
Pas du tout.
Et je trouve que ce morceau est adapté à la chronique de façon extraordinaire.
Effectivement, il va m'offrir l'occasion de dire pourquoi j'avais choisi celui-là et en fait, quelle interprétation on peut en faire à l'aune de la présentation de la chronique. Alors pourquoi je l'avais choisi ? Parce que l'opéra, c'est un moment magique. Une mise en scène, des voix, des chants, un texte. C'est un art absolument exceptionnel.
Ça m'étonnerait pas qu'il soit associé à l'eau.
Et celui-là.
Et les mots, ils s'en foutent. De toute façon, c'est pas en français. Donc.
Et bien, précisément, l'opéra de Gounod est en français.
Ouais,
je puis me permettre.
Oui, c'est la vérité.
Ce qui est suffisamment rare, d'ailleurs, dans l'opéra.
Dans l'opéra, justement, c'est ce que faisait souligner, c'est ce que soulignait le loup.
Le loup. J'ai peut-être un peu trop bu le loup, là. Et donc, l'année dernière, il a été programmé à l'opéra de Montpellier. Et c'est un opéra qui, par sa mise en scène, c'était René Koering qui en avait, avec Richard Mitou, qui en avait assuré la mise en scène. Et il avait fait controverse dans la ville, hué, applaudi. Et donc, l'art avait fait discussion dans
C'est l'occurrence qui s'était pris pour Victor Hugo.
Et donc, c'est pour ça que je l'avais choisi. Alors maintenant...
Je ne sais pas si ça mérite 30 000 euros par mois, mais...
Avec cette petite présentation qui a été faite sur Brutus, César, les Celtes, Napoléon III, Faust...
Fraîche de la fosse.
Faust, Mephisto, gloire immortelle de nos aïeux, eh bien, finalement, c'est très actuel. Avec qui ou faut-il sceller un pacte ? Et quand on scelle un pacte, attention, parce qu'on peut très mal finir. Et donc, il faut garder son indépendance d'esprit et sa liberté d'action. Quant aux aïeux et aux anciens, quand on appartient comme moi à la jeune génération...
Et rassure-toi, ça ne durera pas, hein.
Et je sais bien, chaque jour je mesure, mais je constate quand même que j'ai de la marge... dans le champ de la vie publique, puisque en France...
Non, mais carrément, il est désagréable, là. Il nous prend pour des vieux cons. Là.
Ouais. Je ne commande pas ici les animateurs radio. Je commente la représentation publique, où on constate que la moyenne d'âge tend plutôt à augmenter.
Et donc, tu parles de soirée de vie, là. Mais on en reparlera après.
Je parle de la statistique commune. Attention au poids des anciens. Et moi, j'évolue dans mes combats de gauche. Clairement, quand
de gauche ou à gauche ouais, on va revenir.
De
on va
gauche
revenir,
on et va revenir, à gauche. Dans les manifs, etc. Et souvent, on me dit, mais arrête, mais que tu perds ton temps. Nous, on a fait 68. Ça sert à rien de croire dans des trucs. Voilà, il faut être gestionnaire, etc. Et ben, donc, moi, je dis aux aïeux, bon, OK, vous êtes des gloires, mais parfois, vous êtes des vieilles gloires quand vous tenez ce genre de propos. Parce que chaque génération est en droit d'écrire son histoire. Et donc, d'essayer de dessiner ce qu'elle a envie de faire, de porter comme idée de combat qu'elle veut livrer. Et en tout cas, moi, je ne baisse pas les bras dans mes...
Comment il est on va y revenir dans le débat.
Le bitume a remplacé les pavés.
Comment il est là ? Il critique les soixantenaires qui sont foutus. Pour parler des trentenaires, il a zappé complètement les 40-50 ans. Ça me rappelle des mecs qui s'appellent Philippe, Sorel, Patrick. On va en reparler après. Bon. Eh bien, on va passer, s'il vous plaît, maintenant aux choses sérieuses en la compagnie de Michael Delafosse, notre jeune louveteau qui rêve de devenir un loup. Et alors, vraiment, il le prouve en l'espace de 10 secondes, ensemble ce soir. Alors, on va diverger, pinailler autour de trois débats. Hein. On va d'abord revenir sur cette fable de Brutus des temps modernes et de la dure vie politique au travers des successions. Et puis, tranquillement... Nous déambulerons ensemble dans les étages de l'hôtel de ville de Montpellier, au temps de Hélène Mandrou. Et puis enfin, nous partirons ensemble dans le futur et nous tenterons une biographie complète de notre invité d'hier jusqu'au terme de sa carrière d'ici quelques décennies. Enfin, on va faire le CV de Michael Delafosse de 2010 à 2060, 2070, 2080, Dieu lui prêtera vie autant qu'il voudra. Enfin bref, de quoi débattre et diverger en la présence de Michael de la Fosse, de notre renard préféré, et on va passer au débat. Alors, on va passer au premier débat. Revenons sur Brutus et bien des choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses de l'idée que le meurtre du père en politique serait l'incontournable pour quiconque voudrait parvenir à ses fins?
C'est plutôt une question pour les psys, ça. L'affaire de tuer le père. Désolé.
Non, c'est, les psys qui, l'analyse.
Non, non, ça, c'est les psys qui l'ont récupéré.
Qui l'analyse.
Oui, est-ce que c'est une réalité ou pas?
Je ne pense pas que c'est une réalité. Je ne pense pas que c'est une réalité.
Et en l'occurrence, à Montpellier, ça va être difficile de tuer le père.
Je pense pas que
il va falloir plutôt tuer la mère. Donc, c'est plus du complexe de Dieppe, là. Il y a un problème, là.
Mais c'est terrible, votre truc, là. C'est de meurtre, de tuer les gens. Ouais. Là,
avec
le climat sécuritaire qui règne, on va avoir des soucis à la sortie de l'émission.
C'est pas nous qui tuons les gens. C'est vous, les politiques, qui n'arrêtez pas. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes, évidemment, pour pouvoir prendre la place des anciens. Parce que les anciens, en France, en Angleterre. En Allemagne, ils prennent leur retraite à 60 ans.
C'est le propre des jeunes de vouloir prendre la place du.
Mais en France, il faut forcément. Il faut forcément tuer le père pour prendre sa place. Quand tu prends un fraîche, mais parce qu'on est à Montpellier, on est ici, mais dans n'importe quelle région de France et dans n'importe quelle époque de l'histoire française, il faut nécessairement tuer le père pour pouvoir prendre sa place. C'est impossible de réussir à avoir le pouvoir autrement que de le tuer pour prendre sa place. Alors de le tuer physiquement, ce fut à l'époque, de le tuer politiquement, psychologiquement, socialement, peu importe. Bon, mais en l'occurrence, à Montpellier, il va quand même falloir, quand on a une trentaine d'années pour réussir à avoir le pouvoir, tuer fraîche, Vessiné, Mandrou.
En tout cas, il faut réussir à survivre. Avant de se questionner sur le parricide, il faut se questionner à l'inverse. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de mecs de 30 ans? Parce que les autres, dans des miradors, tirent sur tout ce qui peut potentiellement arriver. Et d'ailleurs, c'est le conseil que me donne souvent Georges Fraîche. Il me dit, jeune de la Fosse, maintenant c'est à balles réelles pour vous.
Et il t'appelle jeune de la Fosse.
Ouais, c'est parfois l'expression, Michael, ça dépend. Mais, ça a commencé comme ça, sur ce conseil.
Au début, c'est jeune de la Fosse. Et puis maintenant, quand tu fais une petite bouffe avec Julie, à la maison, chez Georges, il t'appelle plus jeune de la Fosse.
Non, mais on se connaît de longue date, mais parfois, il nomme ainsi, vous savez comment il nomme, et il dit, faites attention, maintenant c'est à balles réelles, évitez les balles. Parce qu'il voit bien, et il sait bien, qu'à un moment, c'est peut-être pas tant la question pour les gens de ma génération qui est en jeu, celle du parricide, mais la question de la survie, c'est-à-dire de la capacité, c'est-à-dire de la capacité à exister par soi-même. Parce qu'à un moment donné, on défendrait telle ou telle conviction, tel ou tel choix, eh bien, on pourrait faire ombre à autre. Ça, c'est possible. Et donc, est-ce qu'il faut forcément être dans le parricide pour évoluer en politique, ou est-ce qu'il ne faut pas être plutôt la figure du soldat américain qui débarque à Omaha Beach sous le feu des balles et qui essaye d'avancer
Tu as pris le jouer le soldat Ryan.
Il finit mal, lui, alors je le prendrai facile. je prends l'entité géopolitique, les alliés.
D'accord.
La protection en politique, ça existe?
La protection?
C'est par exemple, bon, moi je me souviens, je ne sais plus quel était le fils du roi de France qui disait « Père, regardez-vous à droite, père, regardez-vous à gauche ». Bon, est-ce que ça existe dans l'autre sens? Est-ce que fils, gardez-vous à droite, fils, gardez-vous à gauche?
Non.
La protection n'existe pas en politique.
Non, je crois qu'effectivement, il n'y a pas de paternalisme politique.
Ça n'existe pas.
Et de la même manière, je ne crois pas qu'en politique…
Entre paternalisme et paternité, c'est pas la même chose.
Non, mais encore moins de paternité, là.
Oh, non, encore plus paternité, non.
Et l'autre aspect, c'est que je crois que la politique n'est pas une affaire d'hérédité. C'est-à-dire, c'est pas... ou de transmission de sceptre, ou de transmission de quelque chose. C'est je le disais tout à l'heure à propos de Faust, c'est chaque génération son histoire.
Alors, c'est chacun gagne sa place.
Et c'est effectivement chacun défend ses convictions au sein d'un collectif. En tout cas, moi, je crois à ça. C'est pas simple, parce que quand vous êtes au Parti Socialiste, la notion de collectif, waouh, faut gérer. Et la gauche, la notion de collectif, waouh, faut gérer. Il faut se mettre d'accord sur plein de trucs. Pas simple. Mais je crois que c'est d'abord ça. Alors effectivement, le problème, c'est que vous identifiez que dans votre propre camp, dans l'endroit où vous défendez normalement les mêmes convictions, eh ben, y a des mecs qui passent plus de temps à vous mettre des croche-pieds et à vous tirer dessus, plutôt que de s'opposer à nos adversaires politiques, que serait la droite.
Attends deux secondes. Tu vois, c'est ce que je dis toujours. Le PS, c'est le jeu du tambourin. C'est un jeu collectif où chacun joue pour soi.
Alors, justement, dans le même esprit.
C'est exactement ça.
Dans le même esprit, il y a une chose.
C'est tellement vrai que ça me désespère de vous dire que vous avez raison. Mais j'ose croire qu'un jour, ce sera à l'image de l'équipe de Montpellier de football qui se classe très bien parce qu'elle a un centre de formation des jeunes et qu'à un moment donné, eh bien, elle a un entraîneur, elle joue collectif et elle marque des buts. Et ça, c'est le PS dont je rêve. Mais c'est vrai que ça se ressent plus au beau sport de Max Fouquet.
Et ça, c'est grâce à Nicolas qui prend un mec du PS.
Non, mais moi, j'observe qu'à un moment donné, comme les collectivités, elles ont soutenu cette démarche-là, leurs choix sont validés, c'est tout.
Ah, justement, par rapport à toute cette histoire-là, vous me faites penser, Frèche et vous, à Chirac et Sarko. Mais, non pas sur le plan des idées politiques, mais Chirac n'a jamais eu de fils. Il a cherché un fils, et tout le monde le sait, il avait cru le trouver en Sarko. Sarko l'a trahi, Sarko a tué le père, enfin bon, etc., pour finir par devenir président de la République. Et, en l'occurrence, est-ce que ça vous inspire pas, d'une certaine façon, une réflexion, de dire, je veux pas être le Sarko de Chirac et alors, d'autre part, Mitterrand, lui, il n'a jamais eu de dauphin. Il n'a jamais désigné quelque dauphin que ce soit, alors que Chirac avait laissé entendre Sarkozy, enfin, à une époque. Et alors, du coup, voilà le bordel que c'est chez les socialistes. Il y a 12 500 dauphins, donc jusqu'à présent, il n'y en a aucun qui a réussi à percer, voire éventuellement une dauphine, on n'est pas sûr qu'elle soit Gordini, et ce depuis des années. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux ? Un père qui désigne un dauphin qui le trahit, qui le tue, mais qui, au bout du compte, arrive à ses fins. Parce que moi, je suis tout à fait persuadé que Chirac est pas mécontent du tout que ce soit Sarko, le président de la République, faute éventuellement d'autre chose, mais que Chirac préfère un Sarko à un Villepin. J'en suis intimement persuadé, incapable de le démontrer, mais...
Ça mange rien.
Voilà. Et par contre, Mitterrand, qui dit, moi, de toute façon, je me casse, maintenant, démerdez-vous, je m'en fous. Le résultat, eh ben, c'est Jospin en 2002 qui se fait doubler par un Le Pen. Enfin bref, c'est une cata complète. C'est quoi le mieux ? Donc, un père qui désigne un fils qui va le tuer, ou un père qui dit maintenant, démerdez-vous entre Sorel, Vignal et de la Fosse, et je m'en fous. Et que le meilleur gagne.
La seule question qui est importante dans cette affaire-là, du point de vue des gens de gauche, c'est comment la municipalité...
Attends, c'est tout le...
Je vais revenir après à l'histoire des parricides, tout ça. Mais c'est que la dynamique de gauche, les valeurs de gauche, la construction de logements sociaux, l'argent pour la culture, pour l'école, tout ça, ce qui est le fondement d'une politique publique de gauche, eh bien, ça demeure. Et la question des personnes, elle est... désolé, hein. Elle est secondaire.
Tout le monde est d'accord sur le charme. Pour nos auditeurs, il y a quand même une question, Michael de la Fosse. Mm-hmm. T'es bien au PS ?
Ah oui.
Oui, voilà. Non, mais comme ça, on n'a plus de doute. Quoi.
Eh oui. Je suis militant socialiste.
Non, alors attends. On arrête l'émission. On commence tout du réenregistre depuis le départ. On fait pas de la langue de bois. Non, arrête tes conneries. Alors maintenant, on reprend tout.
Mais si. Attends, il faut dire les choses comme elles sont.
Ah, justement.
Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, je l'ai dit, à gauche, on n'est pas sur le principe de l'héritage. On n'est pas sur le principe de « je te transmets ». Donc, on n'est pas dans le principe de cette espèce de rapport ambivalent qu'entretenait Chirac et Sarkozy. Non,
il a dit ambivalent, il n'a pas dit ambigu, donc pour nos auditeurs, vous prenez le dico.
Non, mais c'était quand même, eux deux, ça a été une sacrée histoire, Chirac-Sarko. Enfin, j'aurais pu choisir un autre opéra. J'aurais pu choisir un autre opéra ou une figure de Shakespeare, de Iago, qui est la figure du traître le plus parfait. Et je trouve que Sarkozy collerait très bien à ça. Bon, Mitterrand, lui, il avait Fabius, Jospin, il les a fait concourir. Il préférait plutôt Fabius. Au final, c'est Jospin qui l'a emporté comme Premier ministre. Bon, hélas, il a échoué en 2002 et de manière très douloureuse pour beaucoup de gens, des millions de gens. Voilà. Et donc, il y a un moment... D'ailleurs, le PS pose cette question de comment on régule les ambitions. C'est les primaires. Et on dit aux gens, venez voter, venez choisir. Venez choisir sur des idées, sur des profils.
Ça, on va en reparler tout à l'heure. On reparlera des rénovations du PS.
Et je pense que Georges Frêche, il est plus... Et pour parler de Georges Frêche, je pense que Georges Frêche, il est plus attaché questionner...
Non, à divergence, on ne dit pas Georges Frêche.
Ah, pardon.
On dit Monsieur Georges Frêche.
Monsieur Georges Frêche. Monsieur Georges Frêche.
Évidemment, chacun sait que sur divergence, on a fait campagne pour le camarade. Et on s'en cache pas, donc...
Donc, Georges Frêche, lui, son
même si Modon a des soucis.
Ce qui nous...
Ça, c'est le renard. C'est le renard quand il se la joue héros du jour.
Petit message, voilà.
Oui. Et donc, d'ailleurs, on lance un message au camarade Delacroix, qui est sur intérim. D'abord, premièrement, puisqu'il est président par intérim, on souhaite le recevoir sur cette affaire-là. Et il faut qu'il arrête d'emmerder nos camarades de l'héros du jour. Non.
Ah oui.
Enfin bref.
Ceci étant dit, reprenons. Parce qu'au final, quand même, on évoque le parricide, on parle de psychanalyse, on a les comparaisons historiques. Bon, donc essayons de revenir. Bon, Georges Frêche, son souci, c'est que la ville, elle reste à gauche, comme l'ensemble des militants, comme l'ensemble des gens de gauche. Donc c'est de savoir à un moment comment ce processus-là s'organise, tout simplement.
Non, mais on s'en fout que la ville reste à gauche ou à droite.
Ah ben, tout le monde s'en fout pas. Je suis désolé. Les mecs qui subissent Sarkozy, ils n'ont pas envie d'avoir les Sarko juniors en local. Désolé.
Ce dont c'est le fromage, je comprends. Et moi, je ne veux pas de Montpellier d'une ville de gauche ou d'une ville de droite. Je veux une ville bien gérée.
Bien gérée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est bien gérée? C'est une ville qui n'a pas à rougir.
Gérer une ville, c'est choisir des options politiques.
C'est des choix politiques. C'est construire du logement social pour essayer d'accueillir les jeunes actifs. C'est avoir une politique culturelle avec des tarifs sociaux. C'est d'essayer de faire place à l'imagination. C'est ça. C'est ça l'idée.
On fait une politique culturelle avec des tarifs sociaux. On va y revenir.
Et ça, c'est important.
Le camarade est de gauche. Je sais à quel point il est éventuellement léniniste. On va y revenir, mais ça va être l'objet du deuxième débat. Je voudrais qu'on discute un petit peu maintenant. Comment un jeune peut-il ou doit-il faire pour arriver en politique? Est-ce que c'est par son mérite? Est-ce que c'est par son charisme? Est-ce que c'est par ses pairs? Ou est-ce que tout simplement ce ne serait pas par le peuple?
Eh bien ça, c'est une vraie question. Et c'est une question très...
Alors, c'est la première fois que tu fais une vraie question.
C'est une vraie question au sens qu'interroge, si on y croit, la démocratie.
Dans 5 minutes, il va me traiter de apathie.
Ouais, mais enfin, faudrait pas que ça finisse dans le même dialogue que Frêche et Apathy, quand même, hein, qui disait « Mais t'étais au PS en 70 et tout !» À Canal, c'était bon, ça. C'était un grand moment de télévision. Là, tout le Languedoc-Roussillon était là, on était...
Sauf que là, tu peux y aller sur ce coup-là. J'étais pas au PS en 70. Bon.
C'est la seule fois où il a eu un blanc. L'apathie.
Mais
il a été apathique, sur le coup.
Je reviens pas sur vous étiez en 70, ça, c'est pas mon débat. Comment est-ce que quelqu'un qui...
J'ai des anards, j'ai jamais quitté.
Ah, c'est bien, il vote pas, ça, c'est pratique. C'est cool au moins. Ça se respecte comme position, c'est une position politique. Bon, comment est-ce que quand on est jeune, on arrive en politique? Alors écoutez, il y a...
Pas politique, apolitique.
Mais ça n'existe pas, la politisme. La politisme, ça n'existe pas. Le refus de faire des choix, ça n'existe pas. Quand on est en 1940, on est face à des choix.
Ah, quand on est un art, on ne fait pas le choix.
Mais si, on fait des choix. On fait le choix de ne pas participer au système.
Exactement,
c'est un choix.
Tout est un choix.
Tout est un choix.
Non, mais,
ah non, mais si.
Moi, j'aime écouter un socialo qui me dit ce que c'est que l'anarchisme.
Non, mais l'anarchisme est un choix politique. C'est un choix de refuser un système, de défendre des formes.
Rappelle-toi que tu as une situation de divergence.
Si tu le convertis,
Mais je sais bien. Et je me sens très à l'aise. Parce que c'est très respectable. C'est une option politique,
c'est
un choix.
Alors, pour être...
Si tu le convertis, c'est que tu es bon. Hein.
Non, mais je ne fais pas trop d'illusions sur le sujet. Mais je me dis que peut-être un auditeur ou deux qui est au moment de sa formation politique, s'intéresse au texte, écoute cette radio, il se dit, oh là, au début, il parle de César, Brutus, Fraîche, de La Fosse, Sorel, Vignal. Et puis, à un moment donné, ils ont une discussion un peu d'un point de vue de science politique. Qu'est-ce que l'anarchisme? Il y a un socialo qui s'exprime, il y a un anarch qui répond. Bon, voilà. Et peut-être qu'on peut éclairer quelques-uns de nos auditeurs.
Non, c'était pas ça. Il y a un anarch qui s'exprime, il y a un socialo qui répond. Alors, non.
Donc, quand on est jeune, c'est ce qu'il dit.
Voilà, quand on est jeune.
On va en politique par conviction.
Par le mérite, par le charisme, par ses peurs.
Je crois qu'on va en politique, on va militer par conviction. Parce que honnêtement, en tout cas, moi, je suis entré comme ça. Après, peut-être pas d'accord toujours sur les convictions, c'est l'essence même. On discute. Mais moi, j'y suis allé par conviction. J'ai commencé mes manifs à 15 ans, je fondais un syndicat lycéen, je fais du syndicalisme étudiant, je fais des trucs.
On fait revenir ça sur la biographie.
Et donc, moi, je crois qu'on avance en politique. J'espère qu'on avance en politique, mais je vais prendre des exemples un peu trash. Par militantisme, par engagement, par le nombre de pétitions et les combats qu'on a défendus.
On est jeune, ça.
Ouais, ben moi j'espère qu'à 80 ans, dans mon CV futur que vous allez faire, j'espère.
À quel âge on les abandonne dans les commissions?
Le plus tard possible. J'espère qu'à la fin de mon CV, j'espère mourir dans une manif. Voilà.
On va voir si ce sera l'homme du café Flore ou l'homme du café Riche.
Et alors, en politique, il y a deux moyens d'avancer. Il y a un mec qui a écrit là-dessus, je trouvais ça assez habile. Il y a soit Ségolène, François Hollande, eux, ils sortent de l'ENA, ils vont dans les cabinets ministériels. Et puis, comme ils trouvent les ministres, qui sont les représentants du peuple, qui ont été des parlementaires, comme Bérégovoy, comme des mecs comme ça, et puis à un moment donné, ils disent ils sont tellement cons, moi, je pourrais devenir ministre. Et donc, de membres d'un cabinet ministériel, tac, ils deviennent élus.
Ça
s'appelle la promotion Voltaire. Qu'on appelle la promotion Nanterre. C'est-à-dire quand on a fait des discussions avec les collègues de la CGT parce qu'on voulait faire une convergence de lutte sur les étudiants ou parce qu'on a défendu dans telle bataille tel écolier qui se fait jeter d'une école parce qu'il y a les lois hortefeux qui sont en train de s'appliquer. Et à un moment donné, ce militantisme-là, il est reconnu. Et la question est de savoir, et c'est une vraie question pour le PS, j'en conviens, c'est tambourin, c'est de savoir à un moment donné, au fond, quelle est la sincérité de ceux qui s'engagent. Et c'est peut-être ça le test. Alors, moi, je ne suis peut-être pas plus sincère ou moins sincère qu'un autre, mais je pense qu'il faut avoir une cohérence entre ses discours et ses actes. Et ça, à un moment donné, ça permet d'avancer en politique. Et en tout cas, moi, on est venu me voir. Georges Fraîche et Hélène Mandroux m'ont dit tu seras sur la liste au municipal parce qu'ils m'avaient tellement vu dans des manifs et j'avais tellement été les voir en disant oui, il faut nous soutenir là-dessus, ce combat-là, vous devez le porter, etc. qu'à un moment donné, ils ont dit écoute, toi, tu as des choses à dire, à défendre, tu viens sur cette liste municipale. Et je me suis retrouvé après.
Justement, tu te sens l'héritier de qui? Alors, je vais te proposer quelques noms. D'Otalva?
Un peu.
Mais tu l'as vu, Talva, depuis deux ans.
Bien sûr.
Il est SDF, il est pauvre, il est malheureux, pauvre, je veux pas dire financièrement.
Oui, mais.
Intellectuellement.
On se voit et.
Il fait de la peine.
Non, mais.
Il fait de la peine, on le croise de temps en temps, dans quelques bistrots à l'heure du midi.
Ouais, mais Henri.
Où il est tout seul, il aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui lui dise bonjour. Personne ne lui dit
Henri,
bonjour.
Henri, moi, je vais vous dire, je suis très content parce que.
Il se sent abandonné.
Il est
un peu abandonné.
On n'est pas d'accord sur tout, c'est normal. Chaque génération écrit son histoire. On n'est pas d'accord sur tout. Mais je vais vous dire, ce mec-là.
C'est un vieux con.
Pas du tout. Il a fait énormément de choses dans cette ville. Il porte encore des combats, le Cinémed, il va faire la Biennale d'art contemporain Casanova Forever. Il porte des choses. Et alors que
Il n'a pas 40 ans, il a déjà la langue de bois.
Mais non.
C'est...
Et Henri, au lieu, il aurait pu dire, bon, ben, Mickaël est adjoint à la culture, et il aurait pu sortir des articles dans la presse, me cogner, il aurait pu... Non.
Ben non, il est là, dans quelle presse ? La presse, Midi Libre.
Non, et il prend le temps.
Qui a fait la campagne de Fresh, il ne pouvait pas le faire. La Gazette, qui ne pouvait
et,
pas le
et
faire.
Chaque fois que j'ai besoin d'un conseil...
Et le du jour qu'il ne pouvait pas le faire non plus.
Chaque fois que j'ai besoin d'un conseil, d'une discussion, non, il est là.
Des choses justes, hein.
Et Henri, c'est un mec...
Il y a guère que je me le reproche à divergence. Bon, pas
visiblement, vous réglez quelques comptes au-delà.
Aucun.
Et donc, Henri, c'est un mec qui est très respectueux. C'est un militant. Voilà, c'est un militant de la gauche. Et il vraiment, pour moi, il a été très correct.
Mais militant quand on a 30 ans, c'est honorable. Mmh. Militant quand on a 70 ans, c'est pathétique.
Pardon ? Être militant à 70 ans, c'est pathétique ? Avoir des convictions à 70 ans, c'est pathétique ?
Non, je ne vois pas le rapport entre être militant et avoir des convictions.
D'être
militant, c'était un militant de base. Après avoir été...
Mais c'est pas un métier, la politique. Donc, à un moment donné, moi, je suis professeur, et c'est la chose la plus belle que je fais de mes journées. Voilà, parce que je transmets le savoir.
On va y revenir aussi.
Et donc, la politique, c'est pas un métier.
On va y revenir aussi.
C'est une fonction, c'est une charge. Et à un moment donné, c'est pas... Puisqu'on était dans la République romaine, c'est pas le jeu des carrières. C'est autre chose. Moi, j'en ai cette conviction-là. J'essaye, en tout cas. Et je peux vous dire, en 2014... On perd le municipal, j'en serais très malheureux parce que ça veut dire que la droite aura gagné. Mais par contre, si moi je dois faire autre chose de ma vie, je ferai autre chose de ma vie et il n'y a pas de problème. Et je vis ça avec une sérénité absolue. La politique, ce n'est pas un métier. Et aujourd'hui, elle perd du crédit parce que pour beaucoup, elle est devenue un métier. Et il y a des gens, qui parlent de l'éducation nationale, qui n'ont jamais vu une salle de professeur. Il y a des gens qui parlent des femmes qui travaillent à temps partiel. Qui ne leur disent même pas bonjour quand ils vont à la caisse ou même qui ne vont plus à la caisse. Et donc la vraie réalité, elle est là. En tout cas, quand on est de gauche, on est tenu à cette exemplarité.
En fait, t'es pas en train de devenir un loup, t'es en train de devenir un renard.
Quand on a eu
Hélène Mandrou à la radio, où Hélène Mandrou nous disait, mais Mandrou, vous savez pas que ça veut dire renard. Et en l'occurrence, là, t'es
en
plus...
En occitan.
Voilà. Et donc là, t'es plus renard que loup, et parce qu'il est aucunement une critique. Mais dans le sens où Hélène Mandrou le disait il y a 15 jours ou 3 semaines, au niveau de la démocratie de proximité, conférence de presse, un élu, un politique, qui n'a pas de métier... en gros, c'est quelqu'un qui ressemble à rien.
Exactement.
C'est là où je faisais référence. Et en l'occurrence, il vient de nous faire une démonstration pour nous dire, grand 1, j'ai un métier. Grand 2, j'ai une fonction, enfin, on peut l'appeler au niveau politique. Et si j'ai plus de fonction politique un jour, j'ai un métier. Donc,
j'ai un métier et j'aurai toujours des combats militants.
Peut-être que tout simplement pour faire.
Et j'aurai des combats. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne serai pas élu que je ne continuerai pas à agir comme un homme
alors,
de gauche.
Peut-être que pour faire de la politique, il faut être un homme libre.
Exactement. La liberté. Et donc ça passe par l'indépendance matérielle et l'indépendance d'esprit.
Voilà.
Et je vais vous
arrête de critiquer les vieux qui t'ont apporté la liberté. C'est les 68
ans. Et bien justement, parlons alors du sujet. Parlons du sujet de l'apéro Facebook. Voilà.
Et au niveau de la technique, je vois là quelques présidents de la radio et tout, qui les uns approuvent et l'autre, avec son casque, n'approuvent pas. Je vous emmerde.
Vous n'êtes pas venir là. On se marre bien. Hein.
Alors, Mickaël, au niveau des héritiers, je vais t'en citer quelques-uns. Vézinet, Mandrou, Delacroix, Foubert, Cougnac. Quels sont les héritiers qui te... Les vieux, les aînés, auxquels tu ferais référence. Vézinet, je sais pas, moi, il te plaît, c'est un joli parcours, Mandrou, Delacroix, Foubert, Cougnac, ils ont tous à peu près le même âge.
Je connais plus ou moins ces personnes-là. Il y a François Delacroix est par exemple quelqu'un avec qui j'ai des relations, j'ai noué des relations parce qu'à un moment donné, on a porté un combat ensemble, on s'est intéressé à la gestion du temps dans la ville. la gestion du temps, c'est quoi? C'est comment le temps s'aménage dans l'espace urbain et comment est-ce qu'on évite d'avoir des embouteillages parce que tout le monde va bosser à telle heure au même moment. Et on a fait ensemble ce chantier-là qui était très stimulant intellectuellement. Et donc, on a réussi notamment à décaler d'un quart d'heure toutes les horaires d'ouverture des universités. Et résultat, le tramway qui mettait 40 minutes pour atteindre Saint-Éloi, eh bien, le temps de trajet s'est réduit. On a fluidifié. Et cette question des temps, eh bien, fait que moi, j'ai noué beaucoup de relations avec François Delacroix. J'étais très content qu'il soit. Et puis, il a été le dernier collaborateur.
C'est la première fois qu'il
a été élu, hein ? Oui, c'est la première fois qu'il a été élu. Mais vous savez, François Delacroix, quand vous l'écoutez, si vous l'invitez, faites-lui parler de sa relation avec Pierre Mendès France. Faites-lui parler de sa relation, cette aventure exceptionnelle à Grenoble. On inventait ce que maintenant on appelle la démocratie participative, mais où on avait une idée de la citoyenneté active. Et François Delacroix, en tout cas avec moi, on a des relations extrêmement fortes. Jean-Pierre Foubert, j'ai lu sa thèse sur l'urbanisme en 1977. Passionnant. Cet homme est capable de lire la ville à travers les comportements. C'est un savant et je pense que les étudiants à l'école d'archi, ils adorent. Hélène Mandroux, ma mère. Eh oui, Hélène Mandroux, moi je voudrais vous raconter une anecdote dont j'ai souvent parlé ici.
C'est pas une midinette de 70 ans.
Eh bien alors là, je vais vous raconter cette anecdote pour vous faire un truc. Vous savez, au début de mon mandat, il y a eu un dossier très compliqué qui était le devenir du Rockstore. Et souvent à Divergence, on m'a invité et Divergence m'a appuyé cette problématique qui était de savoir quand le Rockstore risquait de fermer. Le Rockstore pouvait disparaître. Cette salle de concert mythique, ce lieu apprécié des jeunes, très important pour les artistes. Et puis, au fond, un peu non institutionnel. À Montpellier, on a porté beaucoup de choses institutionnellement. Et dans la presse, j'ai pris position en disant « il faut se préoccuper du Rockstore, c'est un sujet ». Et un jour, je me retrouve dans son bureau. Ça fait 3 mois que je suis adjoint au maire à la culture. 3 mois. Et puis, elle regarde la revue de presse. Je voulais lui parler d'un petit problème. Elle me dit « ah tiens, Mickaël, c'est quoi cette histoire sur le Rockstore? Pourquoi tu prends ces positions-là » Et je lui dis « écoute, tu vois, dans cette ville qui a…
» Il y a des sonistes qui m'a briefé.
Il y a près de 30% des gens qui ont moins de 30 ans. Il y a une scène qui a une histoire. Et son devenir est super important. Les artistes aujourd'hui, ils ont des problèmes pour se rémunérer. La droite fait la loi Hadopi et réprime les jeunes parce qu'ils vont télécharger. Donc quelle est notre réponse à nous, la gauche? Quelle est la réponse de gauche? Quelle est la réponse à gauche? Et donc, je lui explique tout ça. Et elle me dit, t'as raison, on va s'occuper de ce dossier-là.
Il croit qu'il va s'en sortir parce qu'il a compris les deux termes de vocabulaire.
Et donc,
on va y revenir après, il va falloir qu'il définisse ces deux termes.
Hélène Mandroux me dit, c'est toi qui t'occupes de ce dossier et je te soutiendrai. Et résultat, la ville de Montpellier, elle a racheté le Rockstore, 1,5 million d'euros, on va en faire des travaux. Et donc Hélène Mandroux, elle a 70 ans, 69 je crois, mais elle a su comprendre ce qui était un problème politique de la cité qui pouvait émouvoir une partie de la population à laquelle elle est...
Ça prouve que Mickaël Delafosse est véritablement pédagogue. Ce qui est d'ailleurs très bien.
Ce qui veut dire, tout simplement, c'est qu'Alain Lamandro avait deux oreilles.
Attends.
L'exégèse continue. L'intervenant est-il pédagogue ou le maire? Oh là.
Alors, il faut qu'on fasse un petit break au niveau musical. Et donc, Mickaël Delafosse nous a apporté un espèce de pidule qui vient de toute Atlantique, d'Arrête Atlantique. Alors moi, outre-Atlantique, je sais qu'on est au moment du 55e anniversaire du jumelage avec Louisville. Ça, j'ai pas bien compris d'ailleurs, d'une part, pourquoi ça fait aussi longtemps, et même ça ferait aussi peu de temps, c'est pareil. Je crois parce qu'on a à foutre avec ces mecs de l'outre-Atlantique. Et par contre, du côté de la Méditerranée, ça je comprends tout à fait. Bref. On va écouter un morceau d'Aretha Franklin. Il va nous expliquer après pourquoi ce garçon n'a qu'un rêve, c'est de se transformer en Christophe Colomb.
I'm not
De retour sur Divergence avec Michael Delafosse, avec la voix de Pongouzi, et je vous garantis, c'est pas lui, il n'y a pas de souci. On va passer au deuxième débat, Michael, si tu le veux bien. On va parler de la vie quotidienne à la mairie de Montpellier au temps de Hélène Mandroux. Alors, Michael Delafosse, il a fait des études d'histoire. Voire option géographie, ou je ne sais pas si c'est géographie, option histoire.
En fait, j'ai fait un double cursus.
Enfin, on va même en discuter encore après là-dessus. Enfin, bref.
Une émission.
Non, mais bref. Bref, l'histoire de terre tout à fait inconnue. Et donc, c'est vieux bouquin.
Je voudrais d'ailleurs reprendre le débat sur César et Brutus, parce qu'au fond, il a fait quoi, Brutus ? À part Tucoco et Fili. Heureusement qu'il y a eu Shakespeare pour le réhabiliter. Non, ça, mais voilà.
Il a fait la une des journaux.
Il a eu la postérité parce que Suétone, dans la vie des 12 Césars, rapporte que César aurait dit Tucoco et Fili. Celui qui est important dans la lignée, c'est pas César, c'est Octave, qui descend de la sœur Julie. Julie, c'est la sœur de César et c'est son descendant. Et ensuite, Octave s'affronte à Antoine. Lors de la bataille d'Axium, et c'est un débat, non
c'est
pas...
C'est toujours les mêmes acteurs. Hein.
Voilà. Donc je reprends ça. Je sens que là, ça, Mourouzi se porte pas mieux. Mais je me permets cette petite correction.
Et qui est Georges ? Qui est Georges ?
César.
Oh, mais Georges, il est... César. Il est César, je conviens. Mais je pense que...
Et qui est Octave, alors ?
Et qui est Octave ? Ah,
ça. Ça, c'est ça. Qui est Octave ?
Bon.
Mais Octave, c'est une génération, deux générations en dessous.
Alors justement.
Michael, c'est le plus jeune, alors.
Miguel, tiens, un très jeune élu, très jeune dans tous les sens du terme, ça fait 2 ans que tu es élu, depuis 2008, la mairie. T'as jamais connu l'époque fraîche. T'as jamais eu fraîche comme maire, donc comme, entre guillemets, patron. Est-ce que t'en as discuté avec tes aînés, c'est-à-dire ceux qui, de l'équipe aujourd'hui, ont connu fraîche, je veux dire Sorel, Vignal, et quantité d'autres qui ont connu l'époque fraîche. Est-ce que t'en as discuté avec eux ? Est-ce que t'as pas de regret de ne pas avoir connu cette époque-là ? Parce que nous, au niveau journaliste, on a un regret immense. L'époque fraîche, les conseils municipaux de fraîche, c'était un bonheur absolu. Dans une rédaction, quand on disait qui c'est qui va au conseil municipal, il y avait bagarre. Moi, je veux y aller. On se régalait. Maintenant, conseil municipal de Hélène Mandroux, qui c'est qui veut y aller ? Oh putain, non, moi, il faut que je garde mon fils. On s'en branle.
C'est un peu caricaturé, tout ça, quand même.
On s'en branle. C'est mortel. Sauf tout là qu'on nous dit oui, mais Georges Fraîche, tu auras présent. Putain, j'y vais. Oh putain, j'y vais. Non. Alors, comment il le vit,
comme
ça,
quoi.
Comment il le vit, ça, Michael Delafosse ?
Alors, mais moi, je vous...
Attends, je finis. On a Marc Dufour, qui n'a pas connu l'époque fraîche, mais Marc Dufour, qui aurait rêvé de la connaître. Et on a Titsonis, Frédéric, qui, lui, l'a connu, et qui raconte à Marc, il dit, putain, c'était le bonheur, on se régalait. Et avec même le pote de Titsonis, à savoir Bruno Barthès, où ça pouvait finir en bagarre, et jusqu'au point où Fraîche cassait les lunettes de Bruno Barthès. C'était que du bonheur, on se régalait. Maintenant, on s'emmerde à la mairie de Montpellier, non ?
Non, on s'emmerde pas. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'avec Georges Fraîche, il y a une certaine idée du débat politique. Parfois, les mots peuvent apparaître durs.
Non, c'est pas une certaineté historienne. Je le suis aussi. Retire certaine. Il y a une idée du débat politique.
Il y a une idée. Il y a
alors
une
que
idée.
Chez Hélène Mandroux, il y a éventuellement une certaine idée. Tandis que quand on rajoute un adjectif, on retire.
Chez Fraîche, le débat politique, il est important. Et l'idée de clivage, d'opposition, d'affrontement, ce qui d'ailleurs est important dans la démocratie, eh ben, ça compte. En conseil d'agglo, c'est vrai qu'on se régale. Des fois, il fait des sorties. Hop là, on sent bien le tacticien politique, l'artiste de la politique. L'artiste, c'est-à-dire celui qui a un talent, qui est capable à un moment donné de piéger les adversaires UMP de manière extrêmement fine, au point qu'ils sont obligés de l'applaudir parce qu'il a su mener superbement bien les débats. Et ça, Georges Frêche, il est atypique. Il y a quelques grands leaders politiques comme ça de ces 30 dernières années. Mitterrand en était un. Je ne sais pas s'il apprécie beaucoup que je les compare. Georges Frêche n'aime pas beaucoup François Mitterrand. Mais par contre, François Mitterrand était quelqu'un de très fort d'un point de vue politique. Nicolas Sarkozy est aussi à sa manière. Lui, ce n'est qu'un tacticien politique. Il ne fait pas de réalisation politique. Georges Frêche, il fait des réalisations politiques. C'est-à-dire il met l'art de faire de la politique au service de réalisations politiques. Et donc, il est intéressant. Et dans cette société qui est si policée, où à un moment donné, putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Oui, le débat, alors, développement durable. Eh oh, il y a un tiers-monde, il y a des inégalités, il y a un problème. Gouvernance. Oui, on serait tous d'accord ensemble pour mener les projets. Mais non, c'est pas vrai. Il y a des intérêts contradictoires, il faut les exposer, il faut les faire trancher.
Tu connais Sylvie Brunel ?
Bien sûr, je connais Sylvie.
Non, parce que justement, là, avec ton discours sur la gouvernance, développement durable et tout.
Elle écrit son introduction sur, oui, son ouvrage sur développement durable, c'est un concept glouton. Elle a raison.
Elle est des comptes à rendre avec Besson. Ça, on comprend.
Elle a divorcé, elle a écrit un ouvrage féministe, et c'est bien. Parce que Besson ne mérite aucune gratitude de qui que ce soit, même de son ex-femme. Revenons à notre histoire.
Tu n'as pas de relation particulière avec Besson, quoi. On est à Montpellier, du côté de la place.
Divague plus.
J'espère que vous n'avez aucune relation avec Éric Besson.
Ah, aucune. Non,
ah bon, ça va, parce que ce mec-là.
Moi, je connais pas.
Comme disait Rocard à propos de Bousquet avec Mitterrand, radicalement infréquentable. Et moi, je dirais exactement la même phrase.
Je n'achète que les appartements, disons qu'ils sont
Michael, donc tu es en train de nous dire qu'il y a deux façons de faire la politique. Il y a ce que j'appelle la politique de coulisses, de couloirs, de chambres, de commissions, etc. Et puis la politique du ring. Hein, c'est la politique des débats. On peut dire la même chose de ce que dit Leloup, là, par exemple, à ceux qui étaient, il y a quelques années en arrière, à la Chambre des députés, bon, des oppositions qui ont été mémorables.
Mais bien sûr.
Comme
le Pax, la loi SRU,
exactement.
Voilà, des grands moments de débat parlementaire.
Et justement, ce que demande effectivement le citoyen,
c'est du clivage.
C'est effectivement le c'est pas des arrangements de couloirs.
C'est clarté.
Avoir la clarté par l'affrontement.
Exactement. Hein? Et donc, à un moment donné, quand on est dans une position politique, on doit exposer les options qu'on va défendre et éventuellement les opposants doivent pouvoir répondre pour proposer d'autres options.
C'est ce qu'on appelle
un débat. La démocratie, elle est forte. Il y a un débat. On tranche. Le débat, il ne dure pas 107 ans parce qu'il faut aussi avancer. Mais par contre, aujourd'hui, dans la société, je vous fais observer que notre débat démocratique, il est sacrément aseptisé. J'ai employé exprès les mots. C'est bien le développement durable, c'est une belle idée derrière. Mais regardez, quand Total dit développement durable et quand le Parti Socialiste écrit développement durable, je ne suis pas sûr qu'on ait même la même définition. Mais les gens, on les sature de tout ça, c'est un problème. Et Frêche, sa force, c'est qu'à un moment donné, il est capable de remettre du débat. Quand il dit au régional, on va construire 20% de logements sociaux sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon et les communes qui ne feront pas de logement social n'auront plus une subvention de la région, il fait un débat. Et il dit à un moment donné, voilà, prenez vos responsabilités.
Il provoque.
Et ça, je pense que c'est ça. Et ça nous rappelle.
Revenons sur Montpellier, sur le conseil municipal de Montpellier, sur la vie quotidienne à l'époque de Hélène Mandrou, avec qui tu as des relations privilégiées, avec qui tu as même des relations. Dans les couloirs, tu croises forcément Philippe Sorel, Patrick Vignal, Marc Dufour.
Ah.
Frédéric Sitsonis. Je parle de quatre. On pourra en citer probablement peut-être beaucoup d'autres. Mais ces quatre-là, nous, à Divergence, on les connaît bien. Et nous, on sait que tu les as croisés à un moment ou à un autre, relativement souvent. Alors, Sorel, Vignal, Dufour, Sitsonis, c'est lequel ton pote ?
Ah, c'est Fred. Fred, c'est mon pote. C'est-à-dire, c'est pas, on n'est pas d'accord politiquement. Parce qu'il,
ah si non. Il a pris sa carte au PS.
Ah non, pas
personne,
encore.
Personne ne
soutient un mec complètement.
Le pas encore.
Il soutient. Bah oui.
Je retiens le pas encore.
Tout mot socialiste qui se respecte, si, il va essayer de débaucher.
Il était chez mais son rampe, ça, au Odysseum.
Ah non, c'est le pas encore.
À la veille du deuxième tour
télégional. Il soutient un mec qui s'appelle Bayrou, qui dit qu'en France, il n'y a pas de clivage gauche-droite. Moi, je crois qu'en France, le clivage gauche-droite, il est important. Ça a commencé par une histoire.
Il faut qu'on fasse un débat.
Êtes-vous
de
pour
la fausse, c'est une histoire.
Êtes-vous pour ou contre la mort du roi? Ça commence
au
comme ça.
Au niveau de la tour.
Êtes-vous pour ou on contre verra. L'ISF? Êtes-vous pour
on
ou
verra
contre
pour la tour, si on peut dire lequel a le plus de couilles.
Non, là, ce sera à quel nombre d'étages on va, parce qu'on est d'accord là-dessus.
Mais
Fred, non. C'est mon pote, pourquoi? Parce qu'au-delà du fait qu'on se connaissait avant. De nous retrouver ensemble sur la même liste
il,
et dans
il
la
a
même
pas
équipe
choisi,
municipale.
Quoi. Il sait pas encore.
Mais moi, Fred,
il existe.
Je l'adore parce que au fond, c'est un mec de gauche qui s'est retrouvé élu avec les mecs de l'UMP, qui maintenant est au MoDem et que je pense qu'on finira par lui faire chanter l'international dans une soirée bien arrosée si tout se passe bien. Et là,
je
le ferai adhérer au Parti socialiste.
Non, il a déjà fait. Il a déjà fait. Chanter l'inter.
Non, mais l'international, c'est quelque chose de. Voilà, il faut que ça se passe, il y a des rituels, etc.
Ah oui, non. Là, je crois que tu confonds morale et éthique. Parce que si on a une morale.
C'est pas un anarchiste qui va expliquer comment on traite l'international au Parti Socialiste,
attends,
quand même.
C'est quoi J'observe
que l'anarchiste, il veut des motions d'ordre, là. C'est pas possible.
Si on a une morale.
Moi, je suis pas sûr que
si on a une morale
aujourd'hui, qu'on laisse l'international.
On ne chante pas l'inter au Parti Socialiste.
J'essaye de monter une chorale, je lance un appel ce soir.
Oh putain, je viens à ta chorale.
Mais mon problème, c'est que je chante pas bien. Mais.
C'est moi non plus. On s'en fout.
Bon. C'est pas grave, ni Dieu, ni César, ni tribun.
Non, ni maître.
Ni Dieu, ni César, ni tribun.
Dieu, on verra. Mais maître. Oh,
mais en fait, oui, mais vous voulez un César, vous?
Ah oui.
Ah bah oui.
C'est un anarchiste qui est comme un chef.
C'est oui. Ça, c'est un anarchiste qui veut un chef, j'adore.
Alors, quelle relation tu as avec le cabinet? Le cabinet de l'ombre, là, tu sais, là. Comment il s'appelle là, on ne sait plus là. Assaf, Zanquiello, Jambon, Navarro, mais Navarro, pas Robert, hein, le cabinet de l'ombre là.
Ouais, moi je vais vous dire les choses telles qu'elles sont.
Parce que, attends, bon, tu es de temps en temps à la table de Fraîche à la maison, mais tu n'es jamais encore à la table de Mandrou à la maison.
Non, mais il m'arrive d'aller boire des canons avec le maire de Montpellier et de passer des moments...
Pas à la maison, pas en intimité, c'est pas pareil.
Mais d'accord.
N'est pas à sa feu qui veut.
Moi, je le connais bien, Christian, parce que lui, il était président d'une corpo, comme moi, j'étais président de l'UNEF. Comme moi, je disais, il faut aider les étudiants sur des critères sociaux, il faut que tout le monde puisse s'inscrire à la fac, signer ma pétition pour défendre l'étudiant sans papier. Quand lui, bon, il organisait plutôt des soirées étudiantes à l'université.
Je connais quelques vénérables francs-maçons sur Montpellier qui effectivement m'ont déjà tenu ce même discours à propos de Christian Assaf en disant, en gros, c'est un branleur.
Et quand Fraîche,
je l'avais pris. À l'époque, en 2003, je l'ai connu là.
Aujourd'hui, il est au cabinet du maire. Le cabinet du maire, il met en œuvre la politique
du maire. J'ai d'autres personnes. C'est quelqu'un qui est...
Faut pas dénoncer.
Non, c'est un véné sur Montpellier. Ah oui. Je dénonce pas.
Bon. Et donc, il est au cabinet du maire. Et donc, génération normale.
Je rappelle que je suis le loup, donc...
Et qu'il y a de longtemps.
Non, il est mort.
Et qu'il essaye de mordre.
Il est mort.
Ah, que normalement, n'importe quel auditeur digne de ce nom aura compris de qui je parle.
C'est la minute où on ne peut plus rien dire maintenant.
Non.
Il n'y a pas de minute aussi là.
C'est à divergence, c'est jamais de off.
et donc voilà.
Il y en a qui ont cru qu'il y avait du off, mais c'est jamais le cas.
Donc le cabinet, il est là pour mettre en œuvre le projet du maire. Donc quand on a besoin de son arbitrage, il répond présent.
Bon, alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Là. On va passer au maire adjoint de la culture. Rigaudin, qu'est-ce qu'il t'a fait? T'avais de la haine contre Rigaudin que tu lui as supprimé quartier libre? C'est-à-dire que, je veux dire, la culture populaire, la culture léniniste, la culture du peuple, ça t'allait pas. T'as remplacé ça par, par autre chose.
Alors là, je suis abasourdi de la façon dont on termine la discussion. C'est simple. Moi, je pense que à la rentrée prochaine,
On rappelle à nos auditeurs qu'ils n'en ont pas besoin que Jean-François Rigaudin n'est non pas notre président, mais notre président fondateur.
Il y a d'ailleurs une photographie pas très loin.
Il est partout.
Et Jean-François Rigaudin.
On a arraché le Che, on a mis Jean-François Rigaudin.
Mais à sa manière, c'est un peu le Che, c'est-à-dire celui qui a défendu les radios libres à Montpellier, enfin, qui a été précurseur, plus courageux que d'autres, quand d'autres disaient ah, mais c'est pas légal, il faut pas le faire et tout.
Non, parce que Michael Delafosse, il a quand même tué Talvin. Après, il tue Jean-François Rigaudin, qui était l'homme de Talvin.
Mais Jean-François Rigaudin...
Pourquoi tant de haine ?
Dans un monde d'amour.
Non, c'est Brutus. C'est Brutus.
Donc, dans Quartier Libre, quel était le problème point de vue ?
Et
On
rappelle
populaire.
Que Michael nous a mené un domaine de la prose, quand même. Un domaine de la prose blanc qu'on déguste depuis le début de l'émission et qui n'est absolument pas désagréable.
Il est infernal. Comme
et donc, en fait, c'est pour l'instant, il n'y a pas de pacte signé nulle part là. Enfin, on va voir ce qui se passe à la fin de l'émission. Non. Donc, Quartier Libre, qu'est-ce qui s'est passé ? On va, à la rentrée prochaine, proposer aux Montpelliérains une manifestation, une expression artistique dans l'espace public, ce qui était la bonne idée de Quartier Libre. Par contre, le problème que posait Quartier Libre, c'est quand vous programmez que des gens de Montpellier et que c'est juste des gens de Montpellier, ben à un moment donné, vous faites le tour. Et quand vous programmez au même niveau pour le public des amateurs et des professionnels, y a une tension. Et cette manifestation avait ces tensions. Donc on va... garder la bonne idée de Quartier Libre qui était de dire il faut investir les quartiers, il faut investir l'espace public et on va programmer dans l'espace public dans le cadre d'une saison artistique avec des rendez-vous réguliers
ce qui était intéressant quand même des Montpellierains
et des gens qui viennent d'ailleurs parce que la culture il y a eu un débat odieux dans ce pays, sur l'identité nationale. La culture, c'est l'ouverture à l'autre. Et donc, à un moment donné,
C'est Jacques Lang qui a foutu le bordel. Hein.
Et donc, les artistes...
Avec sa fête de la musique à deux balles.
C'est aussi une de ces ambiguïtés. La fête de la musique, c'est les amateurs. C'est-à-dire, ceux qui ont envie de jouer, ils y vont. Voilà, c'est pas un truc où on fait des cachets. C'est on a envie de jouer, on prend l'espace public.
C'est ce qui était intéressant, quand même, dans le Quartier Libre. Et ça l'est toujours, j'espère. C'était effectivement la possibilité, à la fois pour celui qui va assister à quelque chose, d'aller ailleurs qu'à l'opéra ou au Zénith, etc.
Mais
voilà, ça c'était un premier point. Le deuxième point aussi, c'est donner la possibilité à pas mal de créateurs d'avoir une expression.
Et pas seulement au travers
du 21 juin, qui a été complètement galvaudé.
Et le
troisième point, aux spectateurs de subir, et je dis bien subir, les aléas pseudo-artistiques de gens qui se croient...
Personne ne le subit. Il faut te subir. Si ça ne te plaît pas, tu te casses.
Et donc la prophétie...
Pour laquelle je crois que Michael a
modifié... Moi, j'ai souhaité modifier cet aspect-là.
Et je crois que tu as entièrement raison.
Je ne sais pas, il n'y a personne qui subit. Non, mais... Quand on est responsable de la culture... On doit essayer de défendre les artistes. Et défendre les artistes, c'est pas évident, parce que qui est artiste, qui l'est pas.
C'est vrai que la frontière, elle est...
Voilà. Et donc, il y a un moment...
C'est Lénine.
Et donc, c'est... Mais comme qui est journaliste, qui l'est pas. Je m'excuse. Vous êtes journaliste à l'Héros du jour. Vous faites un travail de médiation entre des informations dont vous êtes saturé. Et à un moment donné, vous essayez de les amener au lecteur. C'est un métier. Être artiste, c'est être reconnu par ses pairs, être doté de talent, être reconnu aussi par un public. C'est ça. Après, on peut avoir une pratique amateur. C'est formidable. Il vaut mieux que les gens fassent de la peinture, de la photo, qu'ils regardent cette merde de TF1. Ça, moi, je suis évidemment pour. Et je dois promouvoir ça. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est une offre artistique dans l'espace public, artistique, de gens qui sont de Montpellier, mais aussi d'ailleurs, parce que l'art... On ne peut pas rester que sur les artistes de Montpellier. C'était ça, Quartier Libre. On ne programmait que les artistes de Montpellier. Mais à un moment donné, vous faites le tour. Donc, et il y a des gens très bien à Montpellier qu'il faut programmer, mais qu'il faut aussi confronter à d'autres artistes. L'art, ça n'a pas de frontières. Il y a des gens qui veulent mettre des frontières. Il y a des gens qui veulent se défier face aux autres. Si c'est dans le monde de la culture qu'on fait ça, ben alors là, excusez-moi, on ferme la porte, on arrête, on coupe les ondes. Bienvenue en Radio Sarkozy. Et je
attends,
termine.
Tu vas quand même pas dire qu'on rigole.
Non, mais c'est intéressant quand même.
Radio Sarkozy.
Et donc après, on va garder cette idée d'investir des quartiers pour aller à la rencontre des habitants et pour leur suggérer une offre artistique. Et soit dit en passant, quand l'orchestre de Montpellier fait son concert gratuit Esplanade de l'Europe, Alain Oltinoglou qui prend sa baguette pour un concert qui s'appelle Des tubes que des tubes, et ben voilà, et bien le peuple, bien les gens modestes et les gens aisés, ils se retrouvent ensemble et ils écoutent de la musique. Quand Joan Baez, elle vient au Pérou, et qu'à un moment donné, elle reprend Earth to You, et qu'il y a les Iraniens qui lèvent leur pancarte, merci de nous soutenir, et bien, oui, la musique, comme Aretha Franklin, elle change le monde. Et là, tout le monde y a accès. Et ça, c'est cette conception de la culture qu'on doit défendre. Offrir l'excellence d'un point de vue artistique, mais aussi l'exigence de permettre à tous d'y arriver. C'est jamais simple. Alors, moi, je serais jugé là-dessus.
Mais si je prends, par exemple... attends, deux secondes. Si je prends le parcours, là, comment elle s'appelle, la petite là, qui a eu le Molière de la meilleure comédienne. Et, ma foi, son parcours, il est parti du Festival d'Avignon à Nof.
Et oui.
Donc, ce qui veut dire que le talent, etc.
Et donc, ça veut dire qu'il faut installer...
Le Festival d'Avignon en off n'a rien à voir avec les merdoulines de Quartier Libre.
Et donc, ce qui veut dire qu'il faut une manifestation culturelle repérée nationalement, justement pour aider les artistes de Montpellier. Si la manifestation, l'ensemble du milieu culturel se dit, tiens, là, il y a un geste créatif. Et donc, voit Montpellier, eh ben, on les aide.
Ça,
c'est le job de l'élu à la culture. D'aider les artistes de la ville. Et en rentrant, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, je suis allé au concert de Fausta. C'est un groupe là qui était hier programmé par la TAF à la salle de Saint-Jean-de-Védas. C'est un groupe que nous, on soutient financièrement, qu'on essaye d'aider. Voilà, bon, ben, là, il va peut-être se passer quelque chose. Et c'est ça qu'on doit essayer de défendre. Par contre, si vous êtes programmé dans une manifestation que tout le milieu, conteste, le loup sort les dents.
Il arrive.
Michael. Je crois qu'on là, on est à la bourre carrément. Quoi.
Oh, on a le temps, c'est l'apéro là.
Je crois qu'on revienne au niveau de ta vie professionnelle et puis tout ça. Moi, j'ai pas compris. Parce que, évidemment, je suis allé sur Internet. Et je me disais, Michael Delafosse, il a à peine 30 balais. Sur Internet, il n'y aura rien. Sur Michael Delafosse, il y en a 250 pages. Il y en a de partout. Je déconne, il y en a mais au moins 5 pages. Et je n'ai pas compris. Michael, il est quoi? Il est prof. Il est prof de quoi? D'histoire géo. Il est prof de collège. Il est prof de fac,
et oui.
Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Je vais peut-être vous surprendre.
Il a le CAPES. Donc, il n'a pas la grègue. Il n'a pas la grègue parce qu'il l'a planté, parce qu'il ne l'a pas passé. Et pourquoi pas de ne pas le passer.
Non, je vais vous raconter.
Là, parce que moi, je suis historien et je n'ai jamais passé ni le CAPES ni la grègue. Et je m'en flatte et m'en félicite.
Tant mieux.
Tant mieux, tant pis, peu importe.
Mais je vais vous dire, c'est peut-être la première fois que je vais en parler.
Et surtout, quelle vision il a, Michael, de l'histoire. Parce qu'il est passé par Paul Valéry. J'y suis passé aussi en son temps. Donc, j'ai eu comme professeur des Charles-Olivier Carbonneil. Je sais
Gérard
pas.
Cholvy.
Je l'ai oublié.
Non. Remarque qu'un anarchiste ne peut pas aider Gérard Cholvy, je le comprends.
Non, puis il y a un seuil d'incompétence.
Non, il acceptait.
Il ne savait pas, Gérard Cholvy.
Allez.
Il ne savait pas que De Gaulle, en 1960, avait utilisé l'article 16.
Comment c'est qu'il veut?
Mais on s'en fout.
Tonton Finger.
Là n'est pas le propos.
Que François Mitterrand, hélas, n'a pas aboli l'article 16.
C'est une autre histoire. Mais au niveau donc.
C'est un vrai sujet politique.
Alors, Michael, t'es plutôt historien, t'es plutôt géographe. Pour Paul Valéry, J'espère pour toi, côté plutôt historien que géographe, parce que les géographes de Montpellier, de Paul Valéry, sont la risée du monde entier. Tout le monde se marre des mecs qui sont de Montpellier 3 au niveau des géographes, à moins que tu sois le fleuron qui va redorer le blason de Montpellier 3 au niveau de la géographie, parce que le dernier qui avait fait quelque chose au niveau géographie, c'est quand même...
Raymond Dugrand.
Non, ah, non.
Jean-Paul Vol.
Ah, non. Ah non,
pas Roger Brunet.
Et si.
Oh,
la banane bleue.
C'est pas possible. La banane bleue. Mais ça va pas. Mais quelle honte. La banane bleue. Adhérer à cette école. La banane bleue qui ne met pas Paris comme cœur de l'Europe. Paris qui est quand même la capitale de la quatrième puissance économique du monde.
Je savais que je pourrais l'allumer dans ce coup-là.
Je renvoie à cet ouvrage d'Yves Lacoste qui dirige l'école de géopolitique en France à l'université de Paris 8, qui est une université aussi de déjanté, mais qui est une université...
Et le renard, on peut aller prendre un coup, là, on en a pour 10 minutes.
Moi aussi, je prends un coup, allez. Qui a publié une revue scientifique qui a dit la corématique stop, parce que oublier Paris dans la banane bleue, faut le faire. Enfin, il y a un moment donné, vouloir expliquer l'organisation de l'espace, l'organisation du territoire, en disant on pourrait s'inspirer du tableau de Mendeleïev, comme s'il y avait une classification des éléments périodiques en chimie, pour essayer d'expliquer le territoire. Non, je suis géographe, mais je suis historien, et je m'excuse, mais Paris, c'est une ville qui a 2000 ans. Paris, c'est devenu la capitale d'un royaume qui a été puissant. C'est une capitale politique. Bon, voilà, donc Roger Brunet, il a apporté beaucoup à la géographie, mais sur la corématique, il s'est égaré. Et d'ailleurs, la corématique a été évacuée de tous les manuels scolaires, et encore heureux. Et aujourd'hui, on enseigne une géographie. Moi, je fais des cours de géographie en 6e. Et mon premier cours, c'est « Allez, les enfants, on va aller prendre le tramway et on va aller... » Regardez.
Donc là, si on avait un doute pour nos auditeurs sur Divergence, Michael Delafosse, qui est quand même identifié, étiqueté plutôt comme géographe que comme historien, il me fait plaisir, moi qui suis historien, il n'est en aucun cas un géographe, du moins à l'école de Montpellier 3 et donc de Brunel. Il en a à peu près autant que moi sur la question. Et là, je te renvoie à un colloque sur le Byzantin en 89 où j'avais publié une page blanche.
Ah.
Et une page blanche, je l'avais publiée. Quant aux géographes, quant à l'opinion des géographes sur le Byzantin de la Révolution française, enfin bref, peu importe.
Et donc, bon, on continuera au café, mais on va répondre, on va revenir.
On reviendra.
J'ai fait un double cursus, enfin un triple cursus.
Se présente comme géographe, option histoire.
Je peux finir.
Et plutôt historien.
J'ai fait un double cursus d'histoire, t'es
pas complètement mauvais.
Et un cursus de géographie. J'ai fait un double cursus.
Personne n'est
parfait. Et puis j'ai fait un troisième cursus. Surtout, on ne me voyait jamais en cours parce que je faisais toujours « Oui, bonjour, l'UNEFIDE, tu veux pas signer ma pétition ?» Ou « Voilà, on fait une mobilisation, tu veux pas venir filer un coup de main ?» Ou j'occupais la présidence de l'Université de Lyon 3 parce qu'il y a les fachos qui étaient là-bas parce que j'allais filer des coups de main à mes camarades. J'ai pas peur de ce mot, qui avait des galères face à Gollnisch à l'époque, déjà. Et donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait un double cursus. Je suis parti à Paris, je suis devenu vice-président de l'UNEFIDE et je continuais mes études à Montpellier. Et je me suis inscrit à la Sorbonne, où j'ai fini ma licence d'histoire là-bas. Et puis, à un moment, j'étais dans ce double cursus, puis j'ai eu une rupture amoureuse. Et donc, à Paris, c'était un peu malheureux. Et donc, j'ai fini, je suis allé vers la géographie, où là, je suis en train de terminer quelques travaux de recherche. Voilà. Et ensuite, sur le plan professionnel, je finis juste là-dessus. J'enseignais à l'université. C'est génial. Il y a des étudiants. C'est très dur aujourd'hui pour les étudiants. Mais moi, je passais un super moment avec eux. Mais alors, ce qui m'insupportait, c'est que l'université, on n'a rien à faire des étudiants. Et je ne me sentais pas bien. Et donc, je suis parti. Et j'ai passé mon CAPES sur le tard. J'avais 29 ans. Je me suis retrouvé à la bibliothèque et tout.
Et d'étudiant, tu es passé collégien.
Et je suis allé enseigner au collège. Et j'ai demandé à être affecté en ZEP. Au collège des Garrigues, où je suis très heureux. Parce que là-bas, les enfants, ils n'ont pas tout le capital culturel qu'ont probablement beaucoup d'enfants du centre-ville.
Quand on connaît quelqu'un comme Michael, tout petit peu, on sait que du CAPES, que ça gagne moins.
Et je peux parler de la Grègue, mais ouais. Prenons le Capes. Et je suis allé au collège des Garrigues.
Il va finir inspecteur général.
Et au.
Et ça, c'est le but du jeu. Dans le plus mauvais camp.
Et d'être.
Parce que sinon, il sera recteur.
Et d'être.
Et ça, ça va être la troisième partie de l'émission.
Et d'être prof
si
en
jamais
ZEP.
Il veut bien fermer sa gueule.
Parce que je termine. Je termine là-dessus. Parce qu'être prof en ZEP, c'est juste pour moi qui me sens homme de gauche, fonctionnaire de l'État, mais homme de gauche. Ben c'est simplement un
fonctionnaire de l'État.
Eh oui, parce que je suis obligé.
Ça c'est extraordinaire.
Mais je suis fier d'être fonctionnaire. Je suis fier de servir le service public.
Voir quelque chose.
Attends, je termine sur les gars.
Qui était autre chose que fonctionnaire de l'État.
Oui, il y a fonctionnaire territorial, fonctionnaire hospitalier, et puis il y a tous les salariés du privé. Et je pense qu'aujourd'hui on dit que les fonctionnaires c'est des privilégiés. Et je pense qu'être fonctionnaire, c'est servir le bien commun.
Allez, je termine là-dessus.
Et je suis prof au collège des Garrigues, dans une ZEP, avec des élèves qui n'ont rien, si ce n'est, je citerai une chanson, que l'école ait le droit à chacun de s'instruire. Et moi, qui me suis engagé parce que je voulais que ce monde change, eh bien, des fois, la politique me permet de faire bouger un peu les choses. Mais quand je suis dans ma salle de classe, je me dis qu'il se passe aussi des choses et que je permets à des élèves d'apprendre. Et quand moi, mes élèves, ils utilisent... Ils citent que quand ils ont une trahison dans leur groupe, quand ils ont fait un travail collectif et qu'ils utilisent la locution latine « tucoque fili » pour dire « tu m'as trahi dans la façon dont tu as fait ton devoir », eh bien je me dis, ils ont utilisé une référence culturelle et ils l'ont bien utilisée. Comme quoi, l'usage de César et Brutus, eh bien finalement, ça va aussi dans les salles de cours en histoire romaine.
On peut le faire, surtout quand on est prof d'histoire.
Eh ouais.
Là, on ne peut dire que
le. Ou je leur apprends, des fois, quand il faut parler de la discipline, je leur dis « Dura lex, sed lex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Et on partage.
Là, tu y fais mal.
Ah oui, un anarchiste.
Ah, là, tu y fais mal. Là, tu y fais mal.
Le grand A était bon, le grand E n'est pas bon. Absolument pas du tout.
Voilà.
Justement.
Liberté pédagogique, hein, pas de chance.
Et ben, justement, pour te punir, liberté journalistique.
Sainte liberté journalistique.
Tu nous as parlé des uns et des autres. Eh bien, il y en a un qui a été nommé par Martine Aubry, local, le rénovateur local du Parti Socialiste, Paul Aliès. Alors, justement, tu es aussi universitaire. Alors, ton collègue Paul Aliès, dis-nous à quel point c'est un con.
Ouais, non, mais Paul, c'est un. Il a milité à la LCR à 20 ans, il milite au PS maintenant, donc je le croise au PS.
Bah, arrête la langue de bois.
Être très clair, il ne gagne pas les élections. Et donc il n'arrive pas à défendre correctement.
Alors que c'était son père qui avait
Gagne pas les élections, il nous donne des leçons de rénovation. Moi je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec lui à l'université de La Rochelle, et il défendait... Il disait « Oui, les retraites, il faut arrêter d'y croire à la retraite à 60 ans, il faut les fonds de pension, la capitalisation, c'est normal. » Parce qu'il a été un peu fabusien quand Fabius défendait ça. Il disait ça. Et je lui dis « Mais Paul !»
Il
est dans
le sens suivant, il a deux neurones.
Mais Paul,
il a
tu
ne
peux pas être là-dedans. Donc, je ne sais pas.
En trois
il a
en sciences politiques,
ne permettrait pas de dire ça. Mais en tout cas, dans la façon dont, à mon
on
avis...
On l'a eu à la radio.
Dans la façon dont il prétend mener... un processus de rénovation, je pense que Paul, il fait des erreurs.
Moi, je pense que celui qui n'a pas les moyens de ses ambitions peut avoir des soucis.
Eh bien, mon silence, vous.
Je n'attendais pas autre chose que du renard.
Le renard est vraiment rusé. Le loup mort, mais le renard est rusé. Effectivement, là, il n'y a pas de doute sur le plateau.
Sur ce coup-là, on ne peut passer que... la pause pour le troisième débat avec un morceau de Renaud choisi par Michael Delafosse qui s'appelle Baltique, le chien de Mitterrand, celui qui était en tête du cortège pour son enterrement.
Qui est laissé à la porte.
Non, qui est en tête du cortège à Jarnac.
Mais qui ne rentre pas dans l'église, c'est ce que va nous raconter Renaud.
Et qui ne rentre pas dans l'église.
On a oublié. Mais qui est en tête.
Ah,
et quand on est un socialiste... Tous ceux qui ont
combattu. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas, Michael Delafosse, si je dois l'appeler Mephisto ou Baltique.
« ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé, peur que je ne lève la patte quelque part dans les allées où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique que celui d'un chien pour son maître. Alors ils m'ont privé de cantiques. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Me voilà devant la chapelle, sous cette pluie qui m'indiffère, tenue en laisse par un fidèle, allergique au lieu de prière. Les gens parlent à côté de moi, tu as de la chance toi au moins, la souffrance ne t'atteint pas, l'émotion c'est pour les humains. Et dire que ça se veut chrétien, ça ne comprend même pas que l'amour dans le cœur d'un chien, c'est le plus grand amour qui soit. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Je pourrais vivre dans la rue, être bourré de coups de pied, manger beaucoup moins que mon dû, dormir sur le pavé mouillé, en échange d'une caresse, de temps en temps d'un bout de pain. Je donne toute ma tendresse pour l'éternité ou plus loin. Prévenez-moi lorsque quelqu'un aimera un homme comme moi, comme j'ai aimé cet humain, que je pleure tout autant que toi. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens.
Retour dans les studios de Divergence avec Michael Delafosse, le maire adjoint, le jeune loup. Enfin, on ne sait plus comment l'appeler. Ah, bref, on va essayer.
Michael.
On va essayer d'écrire ensemble son futur. Alors, son futur. 2011, les cantonales. Les cantonales, Michael, t'es pas candidat aux cantonales. Parce qu'on a appris que Frédéric Bord était candidat sur l'Atte, là, aujourd'hui, dans Midi Libre. Toi, t'es pas candidat sur ce coup-là.
Ah, moi, je vais être très clair.
Attends, on va vite.
Je vais très vite.
5 minutes pour aller jusqu'à la fin de ta vie.
J'ai été élu sur la liste des Helmandrou, je suis adjoint au maire à la culture. Il est probable qu'à un moment ou un autre, je sois candidat sur un scrutin uninominal pour aller défendre les couleurs et les valeurs de la gauche.
Alors justement, donc après 2011, 2012. 2012, législatives qui auront lieu après les présidentielles.
C'est normal que tu sois candidat pour défendre les valeurs de la gauche.
Que tu sois candidat. Et donc en l'occurrence, où ça ? Sur la première. Sur la première. Pour prendre la place à Domberg.
Mais c'est, donc, c'est une question de projet et une question de capacité à gagner.
Non, mais ça te plairait.
C'est ça l'enjeu.
Ça te plairait, ça te ferait plaisir.
Ah, moi, je vais vous dire un truc. Aller défendre des idées en porte-à-porte, nuit et jour.
Mais
oui.
Allez, sur la première.
Sur la toutes
première,
mes forces.
Sur la première.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 circonscriptions dans les roues. Allez.
Non, on va pas.
Mais c'est les militants qui décident.
Non, on va pas.
C'est pas les gens.
Non,
c'est pas un défilé de princesses. Ce sont les socialistes qui disent qui sont leurs candidats.
Non,
c'est pas un défilé
fout.
De princesses. Bah, on s'en fout pas des militants socialistes. C'est quand même des gens, des mecs qui donnent du temps, qui collent des affiches.
La troisième qui fut celle que Frèche avait gagnée en 1973, etc. Machin bidule. Que quand même, ce serait contre Jean-Pierre Grand, ce serait mettre du désordre sur cette affaire-là.
Je suis gaulliste et j'aime.
Oui, justement, donc tu vas quand même pas aller emmerder Jean-Pierre.
J'aime bien.
Sur ce coup-là, qui est un copain, on l'aime bien. Non.
Il a déjà son successeur.
Oui, qui est notre camarade de la Forgue. Non, ça peut l'emmerder quand même. La Forgue, c'est un copain.
Putain, mais les anards défendent les gaullistes. Je comprends plus rien.
C'est n'importe quoi.
Ah donc sur la première pour prendre le truc de Domergue et pour niquer Jean-Jean, ça le fait. Bon, 2014 les municipales, t'étais de liste.
Non mais maintenant que tu après il faut voir les choses de commencer.
Tu es
conseiller général député à partir de ce moment, t'as la possibilité d'être maire, non?
Voilà.
Vous savez que ce qui serait très important dans ce pays, c'est qu'on vote une loi sur le non-cumul des mandats.
Soit dit en passant.
Et d'ailleurs, que le Parti Socialiste.
Alors que deux points qu'il en peut plus. Il nous reste trois minutes là. 2014, la mairie.
Que la gauche gagne le plus d'élections face à la droite, et notamment la présidentielle. Le reste, qu'on continue à gagner les municipales.
T'es député en 2012, mettons.
C'est écrit dans votre...
Ah oui, en 2014, tu étais de liste au niveau de la mairie. Vas-y. Bah, dis-le.
Il y a plein de gens.
Coupez le micro.
Vous savez comment ça va se passer?
Écoute, divergence.
Il va te l'expliquer.
Vous savez comment ça va se passer? Eh bien, il y a un moment, il y a un truc qui s'appelle la démocratie. Et dans les partis politiques, il y a la démocratie. Alors, je sais que pour un anarchiste, c'est un peu compliqué à comprendre. Et là, à ce moment-là,
tu parles du jour où tout le monde va mettre le bulletin.
Même
Patrick Vignala n'a pas réussi à m'expliquer ce qu'était la démocratie.
Pourtant, il se donne.
Il n'a pas réussi. Bon.
Et là, avec talent, d'ailleurs.
Bon, alors, si jamais, justement, ces enfoirés de socialo, machin, bordel, militants, n'avaient pas désigné. En 2014, il y a les européennes. Dans ces cas-là, tu peux la jouer Navarro. C'est-à-dire, faute d'être élu par le peuple, tu te peux te faire élire autrement et être député européen.
Enfin, les députés européens, sur un scrutin libre, sont élus par le peuple, quand même.
Ça te plairait, ça?
Moi, ce qui me plaît, c'est de défendre mes idées en cohérence avec mes actes. C'est ça qui me plaît. Donc après,
il y a le générique
après
qui arrive.
on prend un mandat et on porte un flambeau. Mais c'est des dynamiques collectives. La gauche... Désolé pour la mare, mais à mes copains de l'héros du jour, c'est la gauche, c'est une affaire de collectif. Et donc, moins de tambourin et plus l'esprit du Montpellier Hero Sporting Club. C'est comme ça qu'on gagne. Voilà, il n'y a pas de secret. Comment vous m'enterrez là? C'est ça le sujet, c'est comment vous m'enterrez?
Et ministre,
on sera plus là.
Ça te plairait, ça?
Ah oui, ça, oh punaise. Alors ça. L'éduc, ça me brancherait bien. Parce que les syndicats, ils seraient reçus, on ouvrirait la porte. Et comme là, on a passé cette émission, on prendrait l'apéro et on dirait quels sont vos problèmes, on va les régler. Parce qu'on dirait que les enseignants, ils sont ceux qui ont un rôle majeur à jouer dans la vie de la République.
Voilà.
Mais ça va pas, non ! Ça va pas ! L'émission va venir ! Je le tape !
Ah, c'est quoi le but de pouvoir? C'est quoi la différence entre être de gauche et être à gauche? Allez, il te reste 30 secondes.
La gauche, c'est une cohérence. Il n'y a pas ceux qui sont plus à gauche ou moins à gauche. La gauche, c'est être debout pour essayer de se battre pour ceux qui n'ont rien, pour qu'ils aient un peu... Un mot, la dignité. Et donc tu fais des manifs, tu fais des pétitions, tu te présentes à des élections et tu défends cette idée-là. Moi aujourd'hui j'entends dire que c'est les marchés qui gouvernent le monde. Et ben moi je le dis, c'est les citoyens qui se mobilisent. Et moi je te propose un truc, c'est la lutte. Un chaval pour le loup et demain.
Bon,
voilà.
On ne peut pas dire autre chose que Michael est un bon client. Camarade de Divergence, à la semaine prochaine, on va passer de l'autre côté du mur. Nous irons rejoindre la droite avec des gens comme Arnaud Julien pour leur demander.
Je lance un appel à tous les militants de gauche devant Divergence FM. Ayez des banderoles. Retrait du bouclier fiscal. Les riches doivent payer des impôts en France.
Ciao.
Allez,
à la semaine prochaine.